RFI, les 7h à Washington, 13h à Paris, 1h de plus à Jérusalem.
RFI Midi.
Et le journal, c'est avec vous, Florent Guignard, bonjour.
Bonjour, à la une, le retour en Israël des dépouilles de 4 otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023. Nous serons en direct de Tel Aviv dans un instant avec notre envoyé spécial. Donald Trump a un nouvel adversaire, Volodymyr Zelensky, et la Russie s'en réjouit alors que le président ukrainien reçoit aujourd'hui à Kiev l'émissaire du président des États-Unis. En France, face à ce qu'il appelle une menace existentielle, Emmanuel Macron a réuni ce matin l'ensemble des chefs des partis politiques. Donald Trump, un mois depuis son retour à la Maison-Blanche, on verra ce qu'en pensent les électeurs américains, notamment des électeurs de Donald Trump. Et puis dans l'actualité française, il y a aussi l'adoption, il y a un instant, d'une loi contre les polluants éternels, l'un des textes les plus ambitieux au monde.
RFI Midi.
C'est un jour de deuil en Israël, un jour bouleversant selon les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Le jour où le Hamas a remis à Israël les dépouilles de 4 otages, 4 personnes enlevées le 7 octobre 2023 et notamment les corps sans vie de 2 enfants qui avaient 8 mois et 4 ans quand ils ont été enlevés. Il y a aussi le corps de leur mère. Le Hamas a affirmé que ces otages israéliens avaient été tués par une bombe israélienne. Alors officiellement, les autorités israéliennes doivent identifier ces corps. Les cercueils viennent d'arriver à l'Institut médico-légal de Tel Aviv. On retrouve notre envoyé spécial Pierre Olivier. Vous êtes sur la place des otages à Tel Aviv, mais personne ne se fait plus d'illusions sur l'identité de ces dépouilles.
Non, en effet, hein, Florent, et parmi les personnes réunies ici, beaucoup ont profité de l'heure du déjeuner pour venir se recueillir sur cette place où depuis ce matin, on prie, on chante, on pleure aussi beaucoup, notamment lorsque les 4 cercueils noirs ont été remis à la Croix-Rouge un peu plus tôt dans la matinée. Écoutez cette femme, Kim, à qui j'ai parlé tout à l'heure, submergée par l'émotion.
Moi, personnellement, je suis avec le cœur brisé. Et je suis là pour vous participer avec la tristesse de tous mes frères et sœurs en Israël. Et moi, j'ai la gorge qui serre. Ma gorge serre. J'arrive pas à parler parce que c'est pas normal ce qui nous arrive. On peut pas tuer des enfants comme ça. Ça me coupe le cœur. Je peux pas. J'arrive pas. C'est pas normal. Des enfants comme ça.
Voilà une douleur qui est partagée depuis ce matin ici, place des otages, par des centaines de personnes et par toute une nation aussi, puisque le long des routes où est passé il y a quelques minutes le convoi funéraire vers l'Institut médico-légal de Tel Aviv, des groupes de plusieurs dizaines de personnes se sont formés sur les bas-côtés de la route pour se recueillir en hommage à ces 4 corps sans vie. Et c'est assurément une image qui restera comme un symbole de cette journée ici en Israël, Florent.
Pierre-Olivier en direct de Tel Aviv.
On en vient maintenant à Donald Trump, l'Ukraine, la Russie, alors que les dernières déclarations du président des États-Unis ne cessent de troubler les Occidentaux.
Et en particulier les Européens. Le porte-parole de la Commission européenne vient de réagir alors que Donald Trump hier a qualifié Volodymyr Zelensky de dictateur. L'Ukraine, dit-on à Bruxelles, est une démocratie, la Russie de Poutine, non. Donald Trump s'affiche de plus en plus pro-russe en reprenant un à un les éléments de langage de Moscou. Hier soir, par exemple, Donald Trump estimait que la Russie sur la guerre en Ukraine avait les cartes en main puisqu'elle avait conquis beaucoup de territoires. Réaction du Kremlin ce matin, réaction très satisfaite, le porte-parole du Kremlin estime que l'administration Trump est beaucoup plus favorable aujourd'hui que ne l'était l'administration Biden. C'est donc dans ce contexte très tendu que le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit aujourd'hui à Kiev l'émissaire de Donald Trump. Et c'est à cause de ce contexte qu'Emmanuel Macron a décidé de réunir ce matin à l'Élysée, à Paris, l'ensemble des partis politiques français. Le président français estime que la Russie constitue une menace existentielle pour l'Europe. l'Europe, à plus forte raison depuis le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On retrouve devant l'Élysée Victorien Villaume. L'ordre du jour de cette réunion est clair, Victorien, la situation en Ukraine et la sécurité de l'Europe.
Oui, exactement, Florent. D'après un conseiller de l'Élysée qui est venu se confier, le chef de l'État veut mettre les forces politiques à un niveau d'information le plus proche possible du sien, avec l'idée de faire comprendre aux partis politiques du pays qu'on est en train de changer de monde entre l'attitude agressive de la Russie et puis l'instabilité de l'alliance avec les États-Unis. À cette réunion d'urgence, tous les partis politiques ont donc été invités, mais seuls les partis de gauche sont venus s'exprimer en amont. Le patron des socialistes, Olivier Faure, a pointé du doigt le besoin d'unité de la classe politique.
Nous sommes pour la première fois avec un allié américain qui a pris la liberté de vouloir négocier avec les Russes par-dessus le dos des Européens et des Ukrainiens. Nous avons là nécessité de venir faire preuve d'une certaine forme d'unité. Le moment est proprement historique.
Autre intervention, celle de Marine Tondelier, l'écologiste, qui craint que cette nouvelle réunion convoquée en urgence ne soit pas un bon signe au sujet de la sécurité de l'Europe. On l'écoute.
Il y a pile un an, nous étions convoqués aussi en urgence et je me demande si on va discuter de ce que l'on sait déjà ou si on en aura de nouvelles informations encore plus préoccupantes que celles qu'on a en tête.
Marine Tondelier critique par ailleurs la présence du Rassemblement National à cette réunion. Elle estime que le parti d'extrême droite entretient des liens trop étroits avec la Russie et qu'il y a donc un risque d'ingérence. La réunion, en tout cas, se déroule au jardin d'hiver du Palais de l'Élysée depuis maintenant 2 heures et en tout 12 dirigeants de partis ou de groupes représentés au Parlement sont présents.
Victorien Villaume en direct de l'Élysée.
Il est 7h07 à Washington. Washington, où cela fait maintenant un mois que Donald Trump a fait son retour à la Maison Blanche.
Une véritable révolution géopolitique, on vient de le voir. Une défiance généralisée à l'égard du multilatéralisme. En témoigne le sommet aujourd'hui en Afrique du Sud des ministres des Affaires étrangères des pays du G20. Marco Rubio, le chef de la diplomatie des États-Unis, a refusé de venir. C'est un simple chargé d'affaires à l'ambassade de Pretoria qui va représenter les États-Unis. Écoutez ce qu'en disait ce matin sur RFI Carlos Lopez, l'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique.
C'est assez significatif, mais je crois qu'il faut ajouter le fait que le secrétaire d'État au Trésor, Scott Benson, a aussi décidé de ne pas venir à Johannesburg pour la réunion des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales. Donc, nous avons vraiment une position claire de la part des États-Unis par rapport à l'Afrique du Sud, mais aussi par rapport au G20. Je pense que l'absence, elle est vraiment le coup dur qu'on attendait pour pouvoir effectivement à partir de maintenant voir le G20 comme en perte de vitesse et sans pouvoir influencer les grandes politiques internationales et les systèmes de coordination qui ont été mis en place depuis la crise de 2008-2009, la crise financière de 2008-2009.
Carlos Lopez, il était l'invité de RFI Matin au micro d'Edouard Dupénoat. Et puis la Chine, pays membre du G20, a réagi aujourd'hui sur la guerre commerciale enclenché par Donald Trump. Pékin demande aux États-Unis de ne pas brandir le bâton des droits de douane à tout bout de champ comme un outil de coercition.
Alors comment la nouvelle politique des États-Unis est vue dans le pays qui a choisi d'élire Donald Trump ?
Oui, comment notamment les électeurs de Donald Trump jugent-ils les premiers pas, le premier mois de leur champion. Voici le reportage d'Edouard Maï. C'est à Commerce, en Géorgie, dans le sud des États-Unis.
Chad sort d'une boutique avec ses 3 chiens. Actuellement en recherche d'emploi, l'électeur de Donald Trump est ravi des dernières semaines, notamment pour la décision du président d'arrêter d'envoyer de l'aide au développement.
Je veux qu'on nous rende notre argent. On ne devrait pas être le gardien du monde entier. On doit s'occuper de notre propre pays avant de s'occuper des autres.
Aussi, un électeur de Donald Trump, Ted, pense qu'il est trop tôt pour constater les effets sur l'économie, mais doute de l'efficacité d'imposer des frais de douane voulus par le président.
C'est un problème car il faut des usines pour remplacer ces biens qu'on importe et elles ne sont pas en place, donc ça va augmenter les prix.
Danielle termine son déjeuner avant de retourner au travail. Elle ne regrette pas d'avoir voté pour le président, mais a tout de même quelques réserves.
Honnêtement, je suis assez surprise de la vitesse à laquelle il change tout. Ça m'effraie un peu. Comme pour le Golfe de l'Amérique, je ne savais pas quel était l'intérêt de changer le nom. Je trouvais ça assez drôle, mais ensuite il l'a vraiment fait.
Elle s'inquiète aussi de possibles réductions des aides publiques et programmes sociaux, elle qui en a bénéficié par le passé. Édouard Maï, commerce en Géorgie, RFI.
Et ce premier mois de Donald Trump à la Maison-Blanche, on va y revenir à 14h. Sa façon de gouverner, ses déclarations, ses décrets, ses rapprochements à l'international, mais aussi ses prises de distance avec certains alliés. On en parlera avec Françoise Coste, historienne, professeure à l'Université Toulouse 2, spécialiste de la droite républicaine et du Parti républicain. La fin officielle de la présence militaire française en Côte d'Ivoire.
Eh oui, la France a rétrocédé sa base militaire de Port-Bouët qu'elle occupait depuis près de 50 ans près d'Abidjan et qui abritait le 43e BIMA, le bataillon d'infanterie et de marine. Cérémonie officielle ce matin en présence des ministres de la Défense, ivoiriens et français. La France transforme sa présence mais ne disparaît pas, a déclaré le français Sébastien Lecornu.
Rendez-vous dans Afrique Midi dans moins d'une demi-heure. En France, le retour d'un dossier très sensible.
Oui, celui des retraites avec la publication ce matin d'un rapport de la Cour des comptes, un rapport très attendu 2 ans après l'adoption de la réforme des retraites et quelques semaines après des déclarations fracassantes du Premier ministre François Bayrou, Nathanaël Vitran qui parlait d'un déficit caché du régime des retraites.
Oui, voici donc la vérité des chiffres, un état des lieux indiscutable, assure Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, au moment de remettre son rapport au Premier ministre, un rapport qui établit le déficit du régime des retraites, tout système confondu, à un peu plus de 6 milliards d'euros en 2025, avant que la situation ne se dégrade à partir de 2030 en raison du vieillissement de la population.
Il y a un déficit qui, dans les années qui viennent, si on ne fait rien, dérivera vers 30 milliards.
Les 30 milliards de déficit dont parle ici François Bayrou, c'est en 2045 et ce, malgré la très impopulaire réforme de 2023 qui a fait passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. On est toutefois très loin des estimations du Premier ministre qui, dans son discours de politique générale, estimait que l'État surcotisait pour les retraites des fonctionnaires et que le déficit réel était donc, selon lui, non pas de 6 mais de plus de 50 milliards d'euros en 2024. Hypothèse fermement démentie par Pierre Moscovici.
C'est la présentation du rapport qui ne retient pas l'hypothèse d'un déficit caché.
On se retrouve donc avec un rapport qui confirme les chiffres et les tendances, Florent, que l'on connaissait déjà depuis des années. À voir si les partenaires sociaux, parviendront lors du conclave appelé des vœux de François Bayrou à trouver une nouvelle solution à cette équation déjà connue.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI.
On reste en France et l'Assemblée nationale à Paris vient d'adopter il y a quelques minutes une proposition de loi.
Qui faisait presque consensus, et c'est d'ailleurs suffisamment rare pour être souligné, à plus forte raison quand il s'agissait d'un texte défendu par un député écologiste. Un texte pour interdire les PFAS, les polluants éternels, présents un peu partout dans la vie quotidienne. Pauline Glaise, que contient précisément cette loi qui vient donc d'être adoptée?
Eh bien, cette loi interdira les PFAS dans certains produits. Dès l'an prochain, la fabrication, l'importation et la vente de cosmétiques, de vêtements et de chaussures qui contiennent des PFAS seront interdits. Interdiction qui sera étendue en 2030 à l'ensemble des textiles, y compris dans les tissus d'ameublement. Donc, en revanche, bien qu'il existe des alternatives à ces polluants éternels pour les ustensiles de cuisine, les poêles anti-adhésives ont été retirées du texte il y a déjà plusieurs mois après une campagne d'un groupe industriel. Et puis au-delà de ces restrictions, la loi imposera de contrôler la présence de polluants éternels dans l'eau potable. La France ira donc au-delà de la réglementation européenne en ce sens. Et surtout, le bilan des analyses des eaux, y compris de l'eau en bouteille, devra être publié chaque année. Et Paris devra établir une trajectoire nationale de réduction de certains rejets de PFAS par les industries. Des entreprises qui pourraient devoir mettre la main au portefeuille. Le principe de pollueur-payeur est inscrit dans la loi avec une redevance liée au rejet de PFAS dans l'eau. Objectif que les industriels à l'origine de la pollution contribuent financièrement à la dépollution. des pollutions dont les coûts s'annoncent faramineux.
Pauline Glaise, et puis d'un mot très rapidement, du côté du Sénat, on vient d'adopter un texte pour interdire le mariage aux étrangers en situation irrégulière, malgré l'opposition de la gauche, malgré également la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui estime cette mesure attentatoire aux libertés fondamentales. Il est 13h15, c'est la fin de ce journal, mais RFI Midi continue tout de suite. C'est avec vous.
Alban Le Prince.
Alban Le
Prince.
Merci
beaucoup, Florent. Et lui, on se rappelle bien de son prénom. Hein. Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Les sports avec vous et la Ligue des Champions au programme avec la fin des barrages. Hier, des buts, beaucoup, des certitudes et des surprises.
Oui, c'est plutôt bien résumé Alban. On commence par la certitude, si vous voulez. Celle que Kylian Mbappé est bien revenu à son meilleur niveau, tout là-haut, avec les meilleurs. Peut-être le meilleur du moment, l'éternel débat. Et que le Real aussi, parfois balbutiant avec une défense décimée, est un éternel candidat au titre qu'il détient d'ailleurs. Succès 3-1 hier, donc des merengues à Bernabeu face à Manchester City, carré hein, après le 3-2 déjà à l'aller en Angleterre, triplé de Mbappé, 7 buts en C1 cette saison, 24 en tout depuis l'été dernier, et le mieux dans ces cas-là, vous savez quoi Alban, c'est de l'écouter au micro de Pierre Chaperon à Madrid.
C'est bien d'être dans une bonne dynamique, mais il faut continuer et chercher à s'améliorer à chaque match. Au Real Madrid, c'est facile d'être performant tous les mois, mais le plus important, c'est de maintenir ce niveau tout au long de la saison. Mon objectif est simple, progresser chaque jour, chaque semaine, chaque match. Je vais tout faire pour être encore meilleur que contre Gérone et pour le prochain match. Nous devons continuer sur cette lancée. À Leverkusen ou l'Atlético, ce sont deux matchs difficiles. Après, nous voyageons beaucoup, avec beaucoup de matchs. Ce serait mieux de jouer à 20 minutes d'ici et ce sera un match difficile dans tous les cas. Les deux équipes sont bonnes et nous devons batailler pour l'emporter.
Alors Olivier, c'est donc passé pour le Real aux dépens de Manchester City avec un festival de Mbappé, festival aussi de buts au Parc des Princes hier.
Oui, le festival Mbappé en espagnol, vous aurez noté, pour quelqu'un qui est arrivé il y a 6 mois, il se débrouille plutôt pas mal. Il évoquait le tirage au sort, on en reparle tout à l'heure. Festival de buts au Parc des Princes, donc oui Alban, énorme carton du PSG face à Brest, grosse régalade d'un public du parc aux anges, grosse migraine ce matin sans doute au réveil pour les Bretons, 3-0 à l'aller en Bretagne, 7-0 hier, 7 buteurs différents dont celui du géorgien fraîchement débarqué de Naples, attention pour l'addiction, Gvisha Kvaratskhelia, il est au micro de Sofia Namazian.
C'était incroyable avec cette belle ambiance dans le stade. Gagner 7-0 contre Brest, ce n'est vraiment pas facile. Je pense que l'on a su se créer une multitude d'occasions, en plus d'être assez efficace devant le but pour marquer. Nous sommes fiers d'avoir réalisé ce type de performance devant notre public. C'est magnifique de battre Brest 7-0. C'est vrai que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'était un match facile, mais pas du tout. On a beaucoup travaillé à l'entraînement. Le match n'a pas été simple. On se devait d'être prêt et de tout donner sur le terrain.
Ouais, mission accomplie, hein, plutôt bien 7-0. Kvaratskhelia, le géorgien d'un PSG qui a signé sa plus large victoire sur la scène européenne et qui rejoint donc les huitièmes de finale où il rencontrera un géant d'un tout autre calibre que Brest, si on peut se permettre, Liverpool ou Barcelone. Réponse après donc le tirage au sort prévu demain vendredi à 11h, temps universel à Nyon en Suisse.
Un tirage au sort où, bah, la surprise, hein, il n'y aura qu'un seul club italien, l'Inter Milan.
Oui, ces barrages où 16e de finale s'achèvent ont été calamiteux pour le Calcio, la Serie A. 3 équipes engagées, 3 éliminées après l'Atalanta Bergame et le Milan AC mardi. La Juventus Turin a suivi hier, sorti par le PSV Eindhoven 3 après prolongation. Cela signifie qu'il y aura 2 clubs néerlandais dans ce top 16, le Feyenoord et le PSV, le club Bruges, les Belges également, et on n'oublie pas le Dortmund de Serhou Guirassy, le Guinéen, 0-0 hier face au Sporting Lisbonne, battu 3-0 à l'aller. Allez, un tout petit mot de tennis pour terminer, pour vous dire qu'à Dubaï, le Masters 1000 féminin, la jeune russe Mina Andreeva s'est qualifiée pour les demi-finales tout à l'heure, en battant carrément la polonaise Swiatek 6-3, 6-3, elle est numéro 2 mondial, hein, Swiatek.
Merci beaucoup Olivier Pron.
RFI Midi, Alban Le Prince.
C'est un constat inquiétant, alarmant même. La fonte mondiale des glaciers s'est accélérée ces 10 dernières années. C'est le résultat d'une étude inédite publiée hier dans la revue Nature. Et pour comprendre les conséquences de ce phénomène, je reçois ce midi Heidi Sevestre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes glaciologue, membre du programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique et lauréate du prix du livre Environnement 2024 de la Fondation Veolia pour votre ouvrage Sentinelle du climat paru aux éditions HarperCollins. Déjà, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle que jouent les glaciers pour le climat, pour la planète ?
Oui, bien sûr, les glaciers de montagne jouent un rôle absolument crucial dans notre vie de tous les jours. Déjà parce qu'un glacier, c'est une réserve en eau douce. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 millions de personnes sur Terre qui utilisent l'eau de fonte des glaciers et de la neige dans leur vie de tous les jours. Et donc, pour cette simple et bonne raison, on a besoin de préserver ces glaciers le plus longtemps possible. Et ça tombe bien, l'année 2025 a été décrétée comme année internationale pour la préservation des glaciers. Donc, c'est le moment ou jamais de s'y mettre.
Alors, cette étude publiée dans la revue Nature, elle révèle que les chercheurs ont constaté une forte augmentation de la fonte de ces glaciers, plus 36% de glace perdue entre 2012 et 2023 qu'entre 2000 et 2011. Pourquoi une telle accélération ?
Oui, ça s'accélère de façon considérable et c'est terrifiant de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on sait que les glaciers de montagne perdent l'équivalent de 3 piscines olympiques d'eau chaque seconde. Et cette accélération, elle est arrivée sans surprise. On sait que plus on brûle d'énergie fossile, plus ces glaciers vont se déstabiliser. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple ce qui se passe chez nous, dans les Alpes et dans les Pyrénées, on sait que ces montagnes se réchauffent beaucoup plus vite que le reste de la planète. C'est lié à tout un tas de phénomènes, notamment au fait qu'il y a moins en moins de neige, les étés sont de plus en plus caniculaires, et donc forcément, ces glaciers souffrent de plus en plus.
Vous nous dites 3 piscines olympiques chaque seconde. Autre chiffre impressionnant, 273 milliards de tonnes de glace fondue chaque année. C'est l'équivalent de la consommation d'eau de toute la population mondiale pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'elle devient, cette glace ? Elle fond, elle va où ?
Alors, cette glace, donc, elle se transforme en eau, évidemment, en fondant, et c'est de l'eau qui va certes aller dans les écosystèmes, c'est de l'eau qui va aller parfois dans les barrages, c'est de l'eau qu'on peut utiliser pour l'agriculture, pour produire de l'énergie, et c'est de l'eau qui, évidemment, en fin de compte, va se déverser dans nos mers et dans nos océans. Et c'est ce que montre aussi cette étude. Et ça, c'est, je pense, le résultat le plus surprenant de cette étude de Nature, c'est que les glaciers de montagne, ces petits glaciers, en fait, ce sont ceux qui ont le plus contribué à l'élévation du niveau des mers. Ces 20 dernières années, ces glaciers de montagne aujourd'hui contribuent encore plus que des calottes polaires comme le Groenland et l'Antarctique. Donc ils ont une importance considérable et aujourd'hui, qu'on le sache ou non, on est tous liés au destin de ces glaciers.
On apprend également que ce sont les glaciers des Alpes qui ont le plus perdu en volume depuis le début du siècle, 40%. Est-ce qu'ils seront toujours en place à la fin du siècle ?
Ça, c'est une question majeure. On sait l'importance de ces glaciers, on vient de le dire, mais ils ont aussi une importance culturelle considérable, alors qu'on est en plein débat sur les JO 2030, sur l'avenir du tourisme dans ces régions-là. Moi, qui suis une petite fille des Alpes, qui grandit dans ces belles montagnes, je suis très attachée à ces montagnes. Et aujourd'hui, est-ce qu'il va rester des glaciers dans les Alpes d'ici la fin du siècle ? Ça ne dépend que de nous. Aujourd'hui, on sait que si on continue sur les politiques actuelles, on va avoir un réchauffement climatique monumental d'ici la fin du siècle, à peu près 2,7 degrés. Et il ne pourra rester globalement sur Terre que 20 à 24% des glaciers si on continue dans cette direction-là. Mais si on agit dès aujourd'hui, si on fait tout pour réduire notre utilisation des énergies fossiles et nos émissions de gaz à effet de serre, on pourrait encore sauver la moitié des glaciers sur Terre. Donc pour les Alpes, voilà, ça dépend clairement des décisions que l'on prend dès aujourd'hui. Il faut qu'on se pose la question collectivement, quelle quantité de glace on veut laisser à nos générations futures dans les années à venir.
La moitié des glaciers de la planète, il y en a combien au total ?
Alors, il y a à peu près 270 000 glaciers sur Terre. Alors, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose quand on dit des chiffres comme ça, mais si on les met tous bout à bout, ça représente à peu près deux fois la surface d'un pays comme l'Allemagne. Donc, c'est absolument majeur. Et aujourd'hui, oui, ces glaciers, on le sait, sont considérables, souffrent beaucoup. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se sentir impuissant par rapport à ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on est dans l'année internationale pour la préservation des glaciers et tous ensemble, on peut contribuer à les sauver pour les générations futures.
On s'attendait à ce qu'ils fondent aussi vite.
Alors, ça, c'est une question très importante. Cette étude nous montre qu'on ne s'est pas planté hein, dans les prévisions de réaction des glaciers, mais certes qu'il y a quelques régions qui réagissent encore plus vite qu'on le pensait, notamment la Nouvelle-Zélande et les Andes du Sud. Donc oui, nos modèles sont toujours en train de rattraper ce que nous observons sur le terrain, mais nos modèles aujourd'hui sont très performants. Et donc, il n'y a aucune surprise de voir à quel point les glaciers réagissent aussi aujourd'hui. Et ce qui est très clair, il ne faut pas oublier, plus ces glaciers font, plus ils peuvent affecter la population du monde. Et la dernière, justement, il y a une étude sortie par les services de l'État qui mène un travail de cartographie absolument mental en France, qui nous montre qu'il y a 70 sites glaciaires qui sont sensibles dans les Alpes. Et donc, il y a à peu près 20 000 personnes qui pourraient être exposées au risque glaciaire. Donc, ce n'est pas négligeable. Et encore une fois, on a besoin des scientifiques à Grenoble, des scientifiques au Bourget-du-Lac, à Chambéry, qui vont nous permettre de continuer à étudier ces sites-là pour préserver le plus de populations possible.
Dernière question d'un mot, Heidi Sevestre. Est-ce que cette fonte des glaciers, elle va avoir un impact sur notre approvisionnement en eau douce ?
Ah, très clairement, oui. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà des conflits dans le monde liés au retrait des glaciers, des pays qui se disputent ces fameux châteaux d'eau naturelle. Et chez nous, en France, on en a encore énormément besoin des glaciers. Quand on voit les activités industrielles, les activités agricoles qui sont le long du Rhône, le long du Rhin, deux fleuves qui sont intimement connectés à la fonte des glaces et à la fonte de la neige. Donc oui, on va être terriblement affecté, évidemment, par la fonte des glaces dans notre propre pays.
Merci beaucoup, Heidi Sevestre, d'avoir été avec nous ce midi sur RFI.
RFI Midi.
Et avant de recevoir dans 45 minutes Françoise Coste, historienne, professeure à l'Université Toulouse 2, spécialiste de la droite américaine et du Parti républicain, pour dresser un bilan du premier mois de Donald Trump à la Maison-Blanche, on prend la direction de Washington, la capitale américaine, où les partisans du président grisé se retrouvent à l'occasion de la CPAC, la grande conférence annuelle des républicains. Elle s'est ouverte hier dans une ambiance festive et doit durer 4 jours. Le reportage du correspondant de RFI, David Thompson.
Retraitée venue du Texas, Suzanne résume le sentiment d'enthousiasme général partagé par les partisans de Donald Trump croisés dans les allées de la CPAC de Washington.
C'est Noël tous les jours, c'est ce que je me dis en me réveillant. Même si la moitié des réformes ne voit pas le jour, c'est génial.
CPAC, cette grande kermesse annuelle entièrement dédiée au culte de Donald Trump, ses partisans sont encore plus galvanisés qu'à l'accoutumée, tous émerveillés par son bilan. Grand-mère du Delaware, Robin se réjouit du démantèlement en règle de l'État fédéral qu'elle préfère appeler l'État profond et dont les fonctions serait selon elle corrompu, inutile et inféodé aux démocrates.
Il affronte ce que tout le monde appelle l'État profond. On a voté pour élire le président des États-Unis, le Sénat et la Chambre, mais on n'a pas élu l'État profond. Et pourtant, ce sont eux qui dirigent notre pays. Mais ils n'ont pas plus le droit de diriger ce pays que moi. Je suis une électrice, je n'ai pas voté pour ces personnes, je n'ai pas choisi ces gens de l'État profond.
Et selon cette designeuse d'intérieur retraitée, Elon Musk serait l'homme de la situation.
Je ne peux pas imaginer meilleure personne pour faire ce travail. Il n'est pas impliqué dans le jeu. C'est l'homme le plus riche du monde. Il n'a rien à voir là-dedans. Je ne sais pas s'il fait ça par altruisme ou par amour de l'Amérique, mais je pense qu'il déteste le gaspillage d'argent public. C'est un homme d'affaires, il est comme Trump. En bon homme d'affaires, il sait qu'on ne peut pas diriger une entreprise et avoir des déficits comme ceux de l'Amérique et réussir.
Et Donald Trump promet de redistribuer aux Américains 20% de l'argent économisé par les coupes budgétaires d'Elon Musk. Nathalie, retraitée elle aussi, compte beaucoup sur ses retombées.
L'argent de nos impôts a été détourné. J'ai de la famille qui est âgée et cet argent pourrait être utilisé pour ces gens qui sont en fin de vie pour qu'ils n'aient pas à vivre avec seulement 2000 dollars par mois.
Après un mois à la Maison Blanche, le bilan de Donald Trump comble autant ses partisans qu'il tétanise l'autre Amérique, celle qui n'a pas voté pour lui. David Thompson, Washington RFI.
Restez avec nous sur RFI dans un petit peu plus d'une minute. Afrique Midi, ce sera avec Arthur Ponchelet.
RFI à Boaké, 97.6 FM.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Dès l'annonce des élections en Allemagne, un dispositif de désinformation sous influence russe est activé au profit de l'extrême droite allemande. De fausses nouvelles publiées sur de faux sites selon un mode déjà éprouvé aux États-Unis. Avec Marc Fadoul, enquêteur numérique, nous évoquons ces menaces qui planent sur l'intégrité des élections.
Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI. L'épopée des musiques noires.
Pour de nombreux Afro-Américains, le gospel ne doit pas se détourner de ses valeurs sacrées. Quand Annie Caldwell Brown s'est aperçue que sa fille aînée chantait le blues, elle a immédiatement réagi en incitant ses enfants à se tourner vers le Seigneur. Elle a créé un orchestre familial pour veiller sur l'éducation musicale de sa progéniture. L'album Can't Lose My Soul, fruit de cette exigence parentale, est à découvrir avec Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires, ce samedi à 13h30 TU.
RFI.